Aujourd'hui, normalement, il était prévu, j'avais invité est-ce que vous connaissez mon père spirituel? Vous l'avez déjà rencontré, Jean-Jacques Weiler. Alors si Jean-Jacques Weiler est mon père spirituel, Bernard Huc, qui était mon professeur à Vaux-sur-Seine, était mon référent, et puis mon père spirituel avant que je rencontre Jean-Jacques, et donc pendant toute ma scolarité. Je l'avais invité aujourd'hui, mais il n'avait pas enregistré ce rendez-vous dans son agenda. Donc cette semaine, quand je lui ai appelé, j'ai dit « Ah, désolé !» Et puis c'est comme, puisque c'est un homme assez pris, normalement assez, voilà, il n'est pas là avec nous ce matin. Mais c'est pas grave, on va l'inviter un autre jour. Donc j'ai choisi une prédication que j'avais déjà fait dans l'ancienne église, que j'aimerais vous faire, vous partager. C'est dans Genèse 4, chapitre 4. Ce serait bien d'ouvrir votre Bible pour le message de ce matin. Alors dans la Bible, il y a plusieurs personnages, plusieurs récits d'ailleurs, qui parlent des frères, où on voit des frères qui ne s'entendent pas. Comme par exemple Jacob, Ésaü, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas très très, en tout cas, proches. De même Ismaël et Isaac, hein, il y a eu quand même quelques conflits entre les deux. Et puis Joseph et ses frères, qu'on peut voir aussi dans la Bible. C'est un récit où les frères vraiment détestent Joseph, qui a été favorisé, privilégié par le père. Mais là, l'histoire de ce matin, c'est l'histoire des deux premiers frères dans l'histoire de l'humanité, et surtout, on voit le premier meurtre dans l'histoire de l'humanité. Voyez un peu le contexte, dans versets 2 et 3. Ou plutôt, on va lire de Genèse 4, verset 2 jusqu'au verset 5. Je lis. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Voilà jusqu'ici notre lecture. Ici, pour Caïn et Abel, il était naturel de manifester leur reconnaissance après leur travail. Ils ont dû apprendre à travers Adam et Ève comment il fallait honorer l'Éternel. Et puisque Caïn était le cultivateur, il offrait à Dieu le produit de sa récolte. De même, Abel, le berger, offre les prémices de son troupeau. Il n'y avait rien de mal dans cette histoire. Alors pourquoi Dieu a porté un regard favorable sur Abel et non sur Caïn? Beaucoup de gens se posent la question. Puis je me rappelle quand j'étais jeune, quelqu'un m'avait appris en disant que oui, c'est parce que Abel a fait un sacrifice. Le sacrifice, c'est un symbole de ce que le Messie allait faire, c'est-à-dire... Il allait venir mourir, ce qu'on vient de faire là, ce qu'on vient de remémorer, mourir pour notre péché. Et moi, j'étais convaincu que c'était à cause de ça. Et que Caïn aurait dû apprendre aussi par ses parents qu'il fallait justement faire ce genre d'holocauste, sacrifice en tout cas, pour être agréé par le Seigneur. Mais en fait, si nous regardons la Bible de plus près, on voit bien qu'il y a toutes sortes de sacrifices. Il y a des sacrifices d'animaux, qui étaient aussi justes aux yeux du Seigneur, Mais nous voyons aussi dans la loi de Moïse que les sacrifices végétaux étaient présents et appréciés par Dieu. Donc au niveau des offrandes, il n'y avait aucun problème que ce soit pour Caïn ou que ce soit pour Abel. Alors pourquoi ce regard défavorable? Il est intéressant à noter que le texte de la Genèse n'explique pas ce choix libre de Dieu. Genèse n'explique pas pourquoi Dieu a porté ce regard défavorable. Par contre, dans le Nouveau Testament, nous voyons un indice très intéressant pourquoi Dieu a porté ce regard défavorable dans l'Épître des Hébreux, chapitre 11, verset 4, où il est écrit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Voilà. Les Hébreux, enfin l'Épître d'Hébreux, les Hébreux, met la foi d'Abel en valeur pour expliquer que son sacrifice était meilleur et de plus grande valeur que celui de Caïn. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça veut dire que on peut venir à l'Église, on peut croire à l'existence de Dieu, on peut faire un culte le dimanche matin, mais quand il n'y a pas la foi comme Abel a eu pour notre Dieu, ben ça reste sans valeur aux yeux du Seigneur. Ça reste sans valeur aux yeux du Seigneur. Parce que Dieu regarde le cœur, pas l'apparence. Au niveau de l'apparence, il n'y avait pas de problème avec un mais. Voilà, Dieu ne regarde pas un rite religieux, mais un cœur sincère. Un cœur dévoué pour le Seigneur. Pourquoi il y avait eu cette différence? J'ai réfléchi. Pourtant, si nous réfléchissons bien, Abel et Caïn, ils avaient aussi les mêmes parents, Adam et Ève, les premiers hommes que Dieu a créés, que Dieu a formés. Dieu a vraiment enseigné comment il fallait faire. Ils ont été éduqués, ils ont reçu la même éducation, le même enseignement, vivaient dans le même environnement, mais on trouve deux cœurs différents. L'un était pour le Seigneur et l'autre, juste un rite religieux. Parfois, devant un échec ou peut-être devant des gens qui se sont détournés de Dieu, on cherche toujours des prétextes pour dire que ce n'est pas eux les fautifs, mais les autres ou les circonstances. On dit que ils ont eu des parents difficiles, enfin des parents très très durs, ils ont eu une enfance très très difficile, ou peut-être c'est la société qui était trop cruelle envers eux, ou mais peut-être on peut trouver des prétextes comme quoi la planète entière était fautive. Certes, il peut y avoir une certaine influence, on peut avoir une mauvaise vie parce que nous avons eu une éducation assez mauvaise. Pourtant, dans cette circonstance, il n'y avait pas eu de différence d'éducation. Ils ont eu les deux les mêmes éducations. On peut dire qu'on peut recevoir une certaine mauvaise influence, mais il faut se rendre compte que chacun est responsable. Chacun est responsable de ses faits et gestes. Bien sûr, nous avons reçu la nature pécheresse, mais tous ne commettent pourtant pas les choses aussi terribles que Caïn. D'ailleurs, pour Caïn, il ne pêche pas par simple imitation. Il est le premier à commettre un homicide volontaire. Et puis, il avait reçu la même éducation que son frère Abel. Je dirais que vraiment, Caïn était pleinement responsable de son geste. La sanction tombe sur lui. À un moment donné, un engagement personnel et responsable doit être pris. Et c'est là que les parents ne peuvent pas le faire pour leurs enfants. Je continue la lecture au verset 6 et 7. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, Tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui, domine sur lui, domine sur ta cette colère qui monte en toi. Pourquoi Caïn est-il furieux, tellement hors de lui, qu'il va tuer son propre frère? Je dirais que derrière ce crime, il y avait une forte colère qui le rendait vraiment dangereux. D'ailleurs, dans l'Évangile, Jésus déclare, dans Matthieu 5, 22, « Celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être traduit en justice. » La colère est très très dangereuse déjà à la base. Se mettre en colère ne signifie pas encore devenir meurtrier. Cependant, cela en tout cas peut amener vers un crime. Alors, dans Éphésiens 4, 26, il est dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher de soleil, ne donnez aucune prise au diable. » Le Seigneur nous prévient. Quand il y a la colère qui monte en nous, ben il faut dominer. Il faut savoir maîtriser cette colère. Parce que si on cultive cette colère, là, ça entraîne encore vers une autre direction que celle que Dieu a choisie. Derrière la colère de Caïn se dissimule la jalousie. Pour Caïn, c'est trop injuste, car il n'était pas au centre des meilleures attentions de Dieu. Et c'était pour lui insupportable. C'est bizarre, hein? Il croyait en Dieu, il voulait avoir l'attention de Dieu. Il n'a pas eu, il était jaloux. Et là, la colère l'a emparé. Et là, Dieu prévient. Attention, attention. Il n'a pas encore commis de meurtre. Et là, il dit, attention. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi, attention. Et là, devant cette remarque du Seigneur, plutôt de se repentir et de voir ce qu'il devrait faire, il se dit non, il se concentre sur le problème, sur la colère, sur son frère qui a eu plus de choses que lui. Là, comment a été son état d'esprit? Je pense qu'on peut voir ça dans Jacques 1, chapitre 1, verset 15, où il est dit « Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous, qui nous attirent et qui nous séduisent, puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. » Voilà un petit peu le développement de ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Il y a un mauvais désir, une tentation, une mauvaise pensée, ou la colère, ou la jalousie, l'orgueil qui entre en nous. Et puis, si nous méditons, si nous faisons croître cette mauvaise pensée, et que nous cultivons cette pensée-là, après ça va vers le péché. Et ça, bien sûr, le péché engendre la mort. Et c'est ainsi que Caïn va tuer son frère Abel. Pourtant, avant que sa fureur ne le conduise au meurtre, je disais que Dieu, dans sa miséricorde, tend la perche de la grâce à Caïn. Il fait appel à sa conscience en disant « Écoute, attention là, ce que tu es en train de penser. » Il essaye de lui dire qu'il y a quelque chose qui va se passer, donc fais attention. Il fait appel en tout cas à sa conscience. Il le rend attentif à la gravité de sa colère. Et même il lui dit que faire le bien est encore à sa portée. Donc attention. Parfois Dieu nous appelle comme ça. Lorsque nous avons une mauvaise pensée, Dieu, à travers la conscience, à travers les paroles des autres frères et sœurs, ou à travers la lecture, Dieu nous parle. Dieu nous parle pour peut-être nous rediriger vers le bon chemin. Est-ce que nous sommes à l'écoute lorsque Dieu nous parle? En tout cas, Caïn, lorsqu'il a entendu cette voix du Seigneur, il l'a ignoré. Il l'a ignoré. Et rempli de furie, il ne voyait plus rien devant lui. Et puis, il a commis cet acte. Dans 1 Jean 3, 12, j'aimerais vous lire un verset qui concerne Caïn. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Là déjà, foncièrement, il était mauvais. Caïn était mauvais dans son cœur. Même si, voilà, Dieu nous parle, lorsque nous sommes mauvais, lorsque nous sommes loin du Seigneur, lorsque nous sommes juste des chrétiens d'apparence, on n'entend pas en fait ce que le Seigneur nous parle. Je continue la lecture. Versets 8 et 9. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Voilà, Dieu avait donné une seconde chance à Caïn, mais en vain. Celui-ci assassine Abel, et c'est ainsi qu'a eu lieu le premier meurtre de l'histoire humaine. Ce crime était particulièrement odieux, parce qu'il était prémédité, et puis dirigé contre son propre frère. Propre frère. Dieu lui demande, mais où est ton frère Abel? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Juste avant, il dit, après que Adam ait péché, il lui dit, mais où es-tu? Où es-tu? Hein? Dieu cherche, même s'il sait, il sait très bien. Il sait très bien ce qui s'est passé et il essaie d'engager cette conversation pour que la personne se repente à Adam. Et de même, il fait pareil avec Caïn. Où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Dieu tend encore la perche à Caïn. Mais ce dernier répond de façon très insolente. Car il n'avait pas de respect ni pour Abel, qui est déjà mort, ni pour Dieu. Dans sa folie meurtrière, je pense qu'il pensait, enfin, que Caïn pensait même que son délit va passer inaperçu. Tout comme son père, Adam, avait dit avant lui, ben, qu'il s'est justifié de son péché, ben lui, il fait un petit peu l'innocent. Je dirais même, il a un comportement assez pathétique. Un texte de l'Évangile dit dans Matthieu 10, 26, tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Tout ce qui est secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Cette vérité s'applique non seulement à Caïn, à Adam, à tous les personnages bibliques, mais aussi à chacun d'entre nous. Tôt ou tard, nos fautes cachées vont sortir au grand jour devant le Seigneur. Et à moins que nous avons demandé pardon au Seigneur, à moins que nous avons laissé toute la place de notre cœur au Seigneur, ben, ces choses seront... Enfin, Dieu demandera compte. Versets 10 et 11, 10, 11, 12. Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ?» La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voilà, Abel est mort, victime de la méchanceté de son frère. Son sang crie vengeance. Ce qui veut dire que ce meurtre demande que justice soit faite. Et il serait intéressant de comparer avec le sang coulé avec Jésus. N'est-ce pas? Dans le texte du Nouveau Testament, il est dit, le sang de Christ parle mieux encore que celui d'Abel. Hein? Le sang de Christ est comparé avec le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie la vengeance, alors que le sang de Christ crie quoi? Le pardon, source de pardon et de salut. D'ailleurs, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu rend sa justice autrement par le sacrifice de Jésus maintenant. Je vais continuer la lecture dans versets 13 et 15. De 13 au 15. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Le comportement d'un prisonnier ou voilà, d'un pénitencier. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Il est loin de reconnaître sa faute et de se repentir de son acte criminel. Il ne se repent pas. Vous savez, dans la Bible, il y a tellement de personnages, lorsque nous lui avons parlé de leurs péchés, ils se sont agenouillés et demandé pardon. Alors que là, Caïn, il n'a pas une attitude de repentance. Il ne reconnaît pas sa faute. Il s'apitoie surtout sur lui-même. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais mourir. Hein? Il y aura une vengeance qui va être faite par peut-être les descendants d'Abel. Il est en rupture en tout cas. Enfin, il a peur pour sa vie. Je dirais, c'est un homme qui pense qu'il doit lui-même, un homme égocentrique. Et que fait Dieu dans tout cela, devant cet apitoiement. Tout au long de ce récit, nous voyons plutôt le Seigneur faire tout ce qui est en son pouvoir pour tendre la perche à l'aîné et l'inviter à s'arrêter, à renoncer à son projet fou. Dieu vient donc vers Caïn, le rebelle qui prémédite un crime, et même lorsque l'irréparable est commis, le Seigneur protège. Il lui dit, mais je vais te protéger. Je vais te protéger. Pourquoi il fait ça d'ailleurs? On se dit, mais la justice n'est pas faite alors. Puisqu'il a tué, il devrait. Là, dans la Bible, l'Ancien Testament, il est dit, mais dent pour dent, œil pour œil. Donc, il a ôté une vie, il devrait mourir. Pourquoi Dieu l'a protégé? C'est la question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'il aimait autant Caïn, hein, pour mettre un signe de protection? Je suis convaincu qu'il a voulu faire une prévention d'un cercle de violence sans fin. Imaginez si quelqu'un avait tué Caïn. Après, c'est un cercle vicieux, en fait, œil pour œil, dent pour dent. Après, il y aurait eu des massacres des deux côtés. Pour éviter ce genre de choses, voilà. Dieu l'éloigne de les siens. Et puis on voit la bienveillance de Dieu envers les parents. Dieu accorde à Adam, Seth, un troisième fils. Seth ne remplace pas Abel, mais en tout cas, il a été la lignée pour des hommes de Dieu par la suite. J'aimerais conclure. Caïn était châtié. Il était châtié non seulement de la terre où il était, mais sa personne, de tous ses proches. Le fugitif est banni. Il doit fuir loin de ses parents, mais aussi loin de la présence de Dieu. C'est l'exil. Dans cette attitude que nous avons pu voir, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette jalousie qui était en lui, même s'il croyait en Dieu. Cette relation n'a mené à rien. Et ce serait important, en tout cas ce matin, de penser à nous-mêmes. Est-ce que ma relation progresse davantage pour pour vraiment que mes sacrifices, tout ce que je fais pour le Seigneur soit agréé par le Seigneur ou pas. Est-ce que je fais ça par la foi ou pour avoir une certaine reconnaissance des autres? Est-ce que je suis un religieux ou un enfant de Dieu? Est-ce que, comme Caïn, lorsque la colère ou certaines jalousies ou mauvaises pensées entrent en moi, est-ce que je cultive cette mauvaise pensée ou j'écoute la conscience ou la voix du Seigneur pour vraiment revenir dans le droit chemin? Ce sont des pensées qu'on pourrait avoir ce matin. En tout cas, on pourrait aussi penser que Caïn avait l'occasion de se repentir. Dieu nous donne la perche pour que nous puissions se repentir. Mais il a perdu cette occasion. Il a lâché cette occasion. Il a abandonné Dieu, je dirais. Que nous puissions vraiment être toujours des hommes et des femmes qui, lorsque Dieu nous parle, s'agenouillent devant le Seigneur pour demander pardon et que, voilà,